Rien ne peut remplacer la parole d'une personne ayant vécu un choc plus ou moins grave, plus ou moins douloureux. Aussi, l'association Élie m'a proposé de tendre mon micro et d'enregistrer ces témoignages. Déchocage est le résultat de ces rencontres.
On va parler lymphome aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as découvert que tu étais tombé malade ?
En mars 2011, un matin, en me rasant, je remarque un ganglion dans le cou. Bon, sur le coup, je n'y prête pas vraiment attention. Je me dis, c'est une petite infection virale. Ça va disparaître comme c'est venu. Puis, au bout d'une quinzaine de jours, trois semaines, je remarque que le ganglion est toujours là, persistant. Donc je finis par consulter mon médecin généraliste qui lui me dit un peu la même chose, c'est probablement une infection virale, etc. T'as pas de souci à te faire, etc. Puis finalement, au bout de quelques temps, je reconsulte mon médecin généraliste qui me dit oui, effectivement, on va faire une prise de sang. Donc je fais ma prise de sang, la prise de sang rentre nickel, tout était parfait, il n'y avait absolument rien.
Donc c'est rassurant.
Donc c'était plutôt rassurant, donc finalement je dis on va attendre, ça va disparaître, plus ou moins. Puis arrive le mois d'avril passe, le mois de mai arrive, le ganglion est toujours là. Mon épouse, qui est infirmière de bloc opératoire, me dit tu ferais quand même bien de consulter un ORL, voir un peu ce qu'il en pense. Donc je consulte un chirurgien ORL avec qui elle travaille, qui me dit, je pense que c'est effectivement soit une maladie auto-immune, soit une infection virale. On va malgré tout refaire une prise de sang, une échographie et une ponction. Donc je fais la prise de sang. La prise de sang est toujours nickel. Ensuite, je fais l'échographie qui révèle la présence des deux côtés de petits ganglions, pour certains infracentimétriques, et le plus gros à environ 15 mm. Donc le radiologue pratique la ponction. Ça part en analyse.
T'es dans quelle ambiance à ce moment-là ? Enfin, comment tu te sens ?
Bon, je me sens...
Pour l'instant, tout le monde te dit que tout va bien.
Je vois pas la raison pourquoi. Puis je me sens bien. Je ne maigris pas. Je ne suis pas fatigué. Donc non, je suis plutôt serein, quoi. Donc la ponction, elle rentre négative. On ne détecte rien à la ponction. Il n'y avait pas suffisamment de matière acellulaire pour avoir un diagnostic de certitude. Donc je revois l'ORL qui me dit, tu vois, c'est bien ce que je pensais, je pense pas qu'il y a grand-chose, etc. Si tu veux, on se revoit cet été, aux alentours du mois de juillet. Mais il me dit, je pense pas que ce soit nécessaire. Bon, mon épouse continue à insister lourdement, en disant, oui, mais c'est quand même pas normal, on va aller revoir l'ORL. Donc on revoit l'ORL, il me dit, écoute, on va passer un scanner. Et puis, on verra bien. Donc, je passe le scanner. Le scanner ne détecte rien de vraiment pathogène. Il détecte toujours les fameux ganglions infracentimétriques et celui de 15 mm, qui sont, à première vue, non pathogènes. Donc, mon épouse et moi, on dit, oui, mais qu'est-ce qu'on fait ? Ça fait quand même 4 mois que ça dure. C'est quand même bizarre. Donc Jean-Philippe, qu'on connaît, parce qu'on a déjà fait quelques soirées ensemble, dit écoute, si tu insistes, on va monter à l'hôpital, on va ouvrir et puis on verra bien. Donc on était à la période de mi-août, il me dit on va prévoir ça le 15 septembre.
Mais 15 septembre. Mine de rien, ça file quand même.
Voilà, ça faisait déjà 6 mois que ça traînait, quoi. Ouais. Donc le 15 septembre, donc il pratique l'ablation de ce ganglion. À l'ouverture, il a vu tout de suite que ça avait un aspect de lymphome. La pièce est partie en analyse chez la napate.
Et lui avait peu de doutes déjà à ce moment-là.
Oui, lui avait peu de doutes. Il voulait pas vraiment clairement me le dire, ni le dire à mon épouse.
Parce qu'il n'était pas certain, mais...
Mais de toute façon, mon épouse m'a dit par la suite quand elle l'a vu après l'opération, puisqu'elle m'attendait dans la salle de réveil, elle m'a dit, j'ai vu à sa tête que c'était pas bon, quoi. Donc il a immédiatement pris rendez-vous lui-même avec l'hématologue de Boulogne pour me programmer un rendez-vous dans les 15 jours qui ont suivi l'intervention.
D'accord, donc là les choses s'accélèrent vraiment.
Voilà, les choses commencent à s'accélérer, et on attendait le résultat d'anapath, de l'analyse de la pièce qui avait été enlevée. Donc le résultat arrive à peu près une quinzaine de jours après, donc confirmation qu'il s'agit bien d'un lymphome folliculaire indolent, de grade 2. Donc le chef de service d'hématologie qui avait été contacté par le chirurgien me contacte et me fixe un rendez-vous le 5 octobre. Dans l'après-midi, je ne sais plus l'heure, mais enfin dans le 5 octobre dans l'après-midi. Et c'est le premier contact que j'ai avec mon hématologue. Je ne suis pas prêt de l'oublier parce que ce premier contact, elle commence par me dire « Bon, vous avez un lymphome folliculaire indolent. » Elle commence par me dire « Bon, ben, sachez que de toute façon, ça ne se guérit pas. C'est incurable. » Bien, ça c'est le premier coup de semonce. Et puis, pour histoire de bien marquer le coup, elle me dit, c'était le 5 octobre, elle me dit, regardez, aujourd'hui, Steve Jobs d'Apple est décédé d'un cancer du pancréas.
Wow.
C'est pas avec tout son argent qu'il a pu... Donc là, je me prends ça en pleine... Donc là, ça fait très mal. Ça fait... Oui.
Ok.
Donc là, je me suis pris un premier coup dans la tête. On est sorti de là. Alors après, elle décroche son téléphone. Elle me dit, bon, on va faire un bilan d'extension immédiatement. Donc c'est elle-même qui prend les rendez-vous.
D'accord.
Elle me reprogramme un scanner, un TEP scan, une prise de sang, plus spécifique, si vous voulez, et un bilan cardio, en vue d'une chimio, etc. Donc j'effectue tout ça assez rapidement, dans les 15 jours j'avais tout fait, le bilan cardiaque était ok, le scanner j'avais eu le résultat, le scanner était ok, il ne démontrait pas d'autres ganglions dans le corps, si vous voulez, hormis en cervical et en inguinal. Donc j'étais quand même un peu rassuré, je me disais bon oui ça va, c'est pris relativement à temps, la prise de sang est correcte, donc on va me traiter et puis...
Et puis les choses deviennent plus concrètes, voilà. Les tests sont faits, on sait où c'est...
Voilà, donc je revois l'hématologue et je n'avais pas encore eu le résultat du TEP scan, donc elle envoie la secrétaire chercher le résultat du TEP scan. D'accord. Immédiatement. Le TEP scan rentre et le TEP scan n'avait marqué nulle part. Le produit n'avait fixé nulle part.
D'accord.
Donc, ce qui était quand même un très bon signe.
Ouais.
Et là, je me dis, bon, c'est bon, quoi. Je vais avoir un traitement et puis c'est pris à temps, on ne va plus en parler. Et là, elle me regarde fixement dans les yeux pendant, je dirais, 2 minutes sans parler.
Ah oui.
C'est long, 2 minutes sans parler, à se regarder comme ça. Hein. Elle me dit, je ne vous traite pas. Donc là, je me prends un deuxième coup sur la tête. J'étais un peu groggy. Je dis, là, je comprends pas. Là. Je dis, je comprends pas. On dit toujours aux gens que plus vite on découvre un
plus
cancer
vite on va
et plus,
traiter,
on vit le trait, plus vite on va le traiter, plus vite on a de chances de guérir. Elle me dit, non, si vous voulez, vous pouvez aller voir ailleurs. Mais moi, je vous traite pas. Sans me fournir plus d'explications. Donc ça, ça a été le deuxième coup de. Donc je rentre à la maison avec mon épouse, on était un peu groggy, en se disant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va voir ailleurs ou pas? Donc mon épouse, venait juste de prendre sa retraite, prend rendez-vous avec deux chirurgiens avec qui elle travaillait à l'hôpital, et elle dit, et elle explique mon cas en leur disant, bon, mon mari est atteint d'un lymphome folliculaire, on vient de lui dire qu'on ne le traitait pas, etc. Qu'est-ce que vous pensez du chef de service d'hématologie? Est-ce qu'on doit aller au CHU à Lille? Et on a eu la même réponse des deux chirurgiens. Surtout pas. C'est une excellente hémato qui a un niveau pratiquement de professorat. N'allez surtout pas à Lille. Vous allez être un numéro, etc. Faites confiance. Bon, donc on en reste là. On fait confiance. Mais l'hémato, entre-temps, m'avait dit « Bon, je vois que vous n'avez pas l'air bien, etc. Normalement, je devrais vous revoir dans 6 mois. Mais bon, on va faire une exception, je vais vous revoir dans 4 mois. » Elle m'a dit « Histoire de vous rassurer, on va passer une échographie, une prise de sang. » Donc, je la revois au bout de 4 mois. La prise de sang, c'était toujours nickel. Les ganglions à l'échographie n'avaient pas bougé. C'était toujours la même taille, il n'y en avait pas ailleurs, etc. Donc elle me dit, bon, je vois que vous êtes quand même relativement stressé, on va continuer et maintenir cette fréquence de contrôle tous les 4 mois pendant quelques temps. Donc là, on a commencé à parler un peu, elle a commencé à m'expliquer un peu que c'était pas anormal de ne pas être traité, que j'étais pas le seul, que ça arrivait fréquemment. Puis entre-temps, par moi-même, j'ai commencé à aller sur Internet, regarder un peu...
Oui, à te renseigner.
À me renseigner, parce que j'étais pas vraiment rassuré, parce que de ma profession, j'étais fréquemment en contact avec des pays anglo-saxons, et dans les pays anglo-saxons, systématiquement, on traite. Il n'y a pas ce qu'on appelle chez nous la surveillance active, ou ce qu'on appelle aussi l'abstention thérapeutique, on traite. Donc là aussi, ça...
Ces deux visions du monde qui ont du mal à s'accorder. Hein.
Oui, donc je ne comprenais pas bien. Donc je vais sur Internet et je découvre l'association France Lymphome Espoir à l'époque. Donc je vais sur le forum plusieurs fois par jour, je dirais, au début, parce que...
À la pêche aux informations.
À la pêche aux infos, etc. Et là, je tombe sur une personne... Alors, je peux peut-être citer son prénom uniquement, donc les habitués reconnaîtront, il s'agit de Jacqueline. Et au vu de ses écrits, etc., ça ressemblait comme deux gouttes d'eau à ce que j'avais, etc. Et je commence à discuter avec elle via le forum, et puis je ne sais plus comment, j'arrive à avoir son adresse mail perso. Je ne sais plus pourquoi, je ne sais plus comment j'avais fait. Donc finalement, je finis par lui envoyer un mail d'une page. Elle me répond immédiatement. Et puis on a commencé à discuter comme ça pendant quelques temps. Et je dirais que c'est elle qui a fini par m'apaiser et à avoir du recul par rapport à la maladie. Donc je me suis alors mis en tant que bénévole immédiatement au niveau de l'association, c'était en décembre 2011 me semble-t-il. Au début j'allais fréquemment sur le site, sur le forum, etc. Puis est venu en septembre 2012, le premier colloque médical organisé par l'association France Lymphome Espoir à Nantes, où on a eu la chance de rencontrer des professeurs d'hématologie de Nantes, certains venaient même de Montpellier, qui ont franchement nous ont expliqué les nouveaux traitements, l'avenir de l'immunothérapie, l'abstention thérapeutique, et qui m'ont pleinement rassuré.
Mettre des mots en fait sur ce qui était en train de se passer.
Ouais. Donc voilà, ensuite j'ai revu donc fréquemment cet hématologue avec qui j'ai fini par sympathiser.
On part de loin là quand même.
Oui, on partait de très loin. De très loin. Mais avec qui j'ai fini par sympathiser et qui est devenu, je dirais pas une amie, mais quelqu'un à qui j'accordais toute ma confiance. J'ai eu la chance d'organiser avec elle deux journées mondiales du lymphome à l'hôpital de Boulogne en 2015 et en 2018. J'ai également organisé avec elle une exposition photo de patients atteints par le lymphome à l'intérieur de l'hôpital.
C'est chouette ça.
Donc on avait créé des liens qui étaient relativement forts, si vous voulez. Malheureusement, il y a eu un souci entre elle et puis l'administration de l'hôpital. Bon, je connais pas un peu
tous les détails,
qui l'a amené à présenter sa démission pour partir dans le sud de la France. Et là, je dois dire que ça m'a beaucoup chagriné.
C'est presque le troisième coup de semonce.
Oui, mais
avec, à degré variable,
avec,
bien sûr.
Un degré variable et avec des années derrière, si vous voulez, puisque entre-temps, bon, j'ai pu participer à d'autres colloques médicaux à Toulouse, à Lille, à Lyon. Donc j'avais une connaissance assez, je dirais, de la maladie, du lymphome, et des traitements en cours, de l'évolution de certains traitements. Donc voilà, j'étais plus le petit innocent au départ. Voilà. Donc je savais de quoi on parlait.
On commence à connaître le vocabulaire.
Voilà, et je pouvais moi-même en parler, je pouvais moi-même éventuellement rassurer des gens à qui on proposait cette abstention thérapeutique. C'est vrai. Donc voilà, malheureusement l'hôpital de Boulogne, à l'époque était un hôpital, le service d'hématologie de l'hôpital de Boulogne était assez réputé, puisqu'on y pratiquait, on avait à l'époque 5 hématologues, on y pratiquait des autogreffes, au départ de mon hématologue, le chef de service, le service a pratiquement volé en éclats,
oui.
Il restait 2 hématologues, on ne pratiquait plus d'autogreffes. Et on se demandait si le service n'allait pas
fermer. Tenir, oui, oui.
Et de nombreux patients sont d'ailleurs partis, parce que les hématologues qui restaient, bien entendu, ils étaient 2 pour faire le travail de 5 hématologues auparavant. Donc les consultations que je pouvais avoir tous les 4 mois sont passées à 6 mois, et encore, parce que j'ai lourdement insisté, parce qu'à la limite, on m'aurait dit « on vous revoit dans un an ». Comme c'est ce qui s'est passé pour beaucoup, beaucoup de gens qui ont fini par quitter l'hôpital. Quoi. Hein? Donc voilà. Voilà un peu mon histoire.
J'ai une toute dernière question, Dominique. On le sait, hein, le lymphome, c'est une maladie évidemment qui touche personnellement, mais pas que, parce que ça touche l'entourage également. Comment ça s'est passé, cette aventure, entre guillemets, pour la famille?
Ben, disons que pour la famille, disons que bon, pour mon épouse déjà, je pense que c'est peut-être pour elle que ça a été le plus dur, bien qu'elle...
Elle joue un rôle déterminant dans cette histoire.
Je pense que, bien qu'elle ne veut pas le montrer, qu'elle ne veut pas l'avouer, je pense que c'est pour elle que ça a été le plus dur. D'abord peut-être parce qu'elle est dans le milieu médical.
Donc avec des connaissances que d'autres n'ont pas forcément.
Voilà. Mes enfants, on les a un peu épargnés, on évite d'en parler ensemble. Mais je pense que ça doit également, je pense que ça les a également perturbés, surtout au départ. Aujourd'hui, avec le recul, 12 ans après, ils se demandent parfois si ça ne va pas continuer comme ça jusqu'au bout. Et c'est ce qu'ils me disent d'ailleurs. Ils me disent, de toute façon, tu n'auras jamais de chimio, tu ne seras jamais traité, ça va aller, t'inquiète pas, etc. Quoi. Mais on évite d'en parler.
Un énorme merci, Dominique, pour ton témoignage. C'était vraiment super intéressant. Et merci pour tout ce que tu as fait. Alors, à l'époque, pour France Lymphome Espoir, mais du coup, aujourd'hui, j'ai envie de dire pour Élie, parce que c'est, je pense, ce type d'action, même dans un petit carcan, qui peut être un forum, par exemple, ce genre de choses, qui peut vraiment rassurer et aider les gens. Un énorme merci.
J'essaye de rendre peut-être à d'autres personnes ce que l'association m'a apporté. Je voudrais aussi ajouter que donc j'ai été opéré le 15 septembre 2011 et j'ai appris plus tard que le 15 septembre était la journée mondiale du lymphome. Si quelque part ça n'est pas une ironie du sort, je ne m'y connais pas.
Déchocage est réalisé par TMDJC Création et produit par l'association Élie. Retrouvez la conversation entre Dominique et Sébastien ainsi que l'ensemble de nos productions sur Élie.fr, E2LYE.fr. TMDJC Creations.